Historiquement vôtre.
Chaque jour, vers 5h10, c'est l'incompréhension. Stéphane Bern a pourtant une tête de bon élève, voire de premier de la classe. Chaque jour, il se présente au quiz avec ses lunettes, ses stylos, ses crayons bien taillés. Il n'y a qu'une chose qu'il oublie à chaque fois, ses neurones.
J'avais bien qu'il manquait un truc.
Jouons à Bern to be alive, notre célèbre quiz. Stéphane, la première question. Et comme le veut la tradition pour vous, question 5e République et séparatisme. En France, aujourd'hui encore, l'archevêque de Strasbourg et le diocèse de Metz sont nommés par le président de la République. Vrai ou faux? Attention, il y a peut-être un piège, et quand je dis peut-être, ça signifie que c'est une possibilité.
L'archevêque
de Strasbourg et...
Et l'archevêque, le diocèse de Metz.
Alors,
seraient nommés par le président de la République encore aujourd'hui.
Ils ne sont
c'est
pas nommés par le président de la République. Ils sont nommés par le Vatican, mais soumis, leur nom est soumis au président de la République parce que il y a toujours le concordat avec l'Alsace et la Lorraine. Mais la nomination est faite par le choix est fait par le Vatican.
Sur le plan administratif, ils dépendent du ministère des cultes, de même que le salaire des prêtres et des pasteurs.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné. Et en cas d'égalité, ou si jamais vous êtes en retard d'un point au final, vous aurez même 2 points. Parce que vous nous avez donné la bonne réponse en déjouant le petit piège. C'est vrai, mais c'est faux à la fois. Vous l'avez parfaitement formulé, Stéphane. Alors je ne sais pas si je dois le répéter. On le doit à Napoléon Bonaparte. Ce dernier a signé avec Picette le Concordat de 1801. En 1905, avec la loi sur la séparation des églises et de l'État, le contrôle par les autorités publiques sur les représentants de l'Église a disparu, sauf dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Concrètement, comme vous l'avez dit, c'est le Vatican qui choisit. Le président ne fait que signer, mais en 2013, mini-scandale, Stéphane, en 2013, Manuel Valls avait tiqué sur une nomination, mais ça s'était réglé diplomatiquement sans trop de problèmes. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kelsenbach. On se souvient du goût de Kennedy pour les femmes, toutes les femmes, et ce de façon un peu obsessionnelle, mais ce qu'on a un peu oublié, c'est qu'il a été le premier président américain à gracier la dinde de Thanksgiving. Vrai ou faux ?
Il a voulu supprimer cette tradition de la dinde.
Ah, je ne vous dis pas ça, je me demande si c'est le premier qui a gracié la dinde de Thanksgiving.
Il a gracié la dinde.
Il a gracié la dinde, oui.
Oh, qu'est-ce que ça veut dire, gracier?
Elle a été sauvée, on ne l'a pas cuite.
Oui, ça j'ai bien compris, mais il a sauvé toutes les dindes de tous les États-Unis.
Non, il y a toujours eu une qu'on présente au président. Pour Thanksgiving, on présente une dinde.
Ah, j'ignorais ce détail.
Ah oui, et le président, traditionnellement, gracie la dinde
de Thanksgiving. Oui, tout le monde l'a fait, Trump, Obama. Ouais. Et ma question est, est-ce que
c'est
Kennedy
qui a inauguré
qui a initié
cette tradition?
Oui.
Oh, bon, écoutez... Comme il avait vu le feu pendant la guerre, peut-être qu'il était extrêmement pacifiste ou qu'il a voulu inaugurer sa présidence par une grâce présidentielle. Je veux dire, oui, je connaissais pas cette histoire.
Vous avez gagné.
Et c'était en 1963, c'est le 4e jeudi de novembre et tous les ans, on estime à plus de 46 millions de dindes qui passe au four à cette occasion, sauf la dinde qui a la chance d'être Maison Blanche, qui elle est graciée. Je ne sais pas ce qu'ils en font d'ailleurs de cette dinde.
Mais ils la rendent, je ne sais pas. En tout cas, il y en a une autre qui est dans le four. Hein.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. En France, la garde républicaine, durant son histoire, a souvent été dissoute puis refondée. Elle a été créée en 1802 par Napoléon Bonaparte. Elle est commandée par un général de division avec 2 régiments d'infanterie, un régiment de cavalerie, un état-major et des formations musicales. Ça suffit, je crois que j'ai dit assez de choses là-dessus. Vrai ou faux, la garde républicaine achète ses plumes au Moulin Rouge?
Absolument pas, parce que les plumes, je les ai vues parce que je parraine un peu de 3 activités de la garde républicaine à la caserne, au quartier. On dit pas caserne, c'est un quartier.
Il y a
les Célestins, ça c'est les Célestins, et il y a celui de la place de la République. Et là, eh bien, vous avez les celliers, vous avez les plumassiers, vous avez les gens qui travaillent justement sur. Alors que maintenant ils se fournissent. Chez le même plumassier.
Ils ont le même plumassier, c'est ça que le Moulin Rouge, sans doute.
Ils ont peut-être le même plumassier, mais ils ne se fournissent pas au Moulin Rouge. Il y a un piège là. Ils ne se fournissent pas au Moulin Rouge, ils ont peut-être le même plumassier que le Moulin Rouge. C'est un peu différent.
C'est la régie qui décidera.
Vous avez Gagné.
Ah oui, ils sont gentils avec vous. Oui, c'est vrai, vous avez donné la bonne réponse, Stéphane. C'est exactement ce que vous avez dit. Plus exactement, la garde républicaine se fournit à la Maison Février. Ce sont des plumassiers qui existent depuis 1929.
Le dernier plumassier, non ?
Le dernier,
d'ailleurs,
oui.
Mais qui a été racheté par le Moulin Rouge. Oui. Voilà. Les autres clients, des maisons de haute couture et l'Académie française, où vous rentrerez bientôt, Stéphane, probablement. Vous n'avez pas déposé votre candidature déjà ?
Non.
Ou pas ? Ça viendra un jour.
Bah, je ne sais pas, pour le moment, non.
Vous avez publié suffisamment de livres, en tout cas.
Oui, mais ce n'est pas, pas au nombre de livres. Vous voyez.
Si, c'est au poids maintenant. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Le 25 juin 1984 commence la construction à Bucarest, là où Stéphane avait acheté cette chemise à motif, des motifs
d'ours polaire.
D'ours polaire, très très beau. En 84, donc, commence la construction à Bucarest du palais du Parlement qui abrite encore aujourd'hui le Sénat et la Chambre des députés. C'est le deuxième plus grand bâtiment administratif au monde après le Pentagone. C'est pas la question, ça c'est vrai, je vous le dis. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a été entièrement financé par le Kremlin. Vrai ou faux ?
Il aurait été... Ça me paraît énorme quand même.
Et Ceaușescu a rasé des quartiers entiers pour construire ça. Il y avait, je crois, 7 ou 8 églises qui ont été...
Là, vous êtes en train de fournir des éléments de réponse
je le sais,
à Clémentine.
Ça. Tout ça, je le sais. Ce, que,
voilà,
ce sur
sait.
Quoi... Non, mais ça, qu'il est rasé, on a tous vu des images de la ville rasée et de ce palais mégalomane. Mais la question, c'est est-ce que les Soviétiques auraient financé de A à Z pour un pays frère ? Bien sûr, ils étaient prêts à cracher aux bassinets. Mais est-ce qu'ils auraient financé l'intégralité de ce truc gigantesque ? C'est ça qui me paraît étonnant. En même temps, si c'est faux, la question est un peu dépourvue d'intérêt. Donc, je serais tenté de dire que c'est vrai.
Vous avez...
C'est le piège de tout ce jeu du quiz, c'est que certaines questions sont dépourvues d'intérêt. Pour vous piéger, effectivement. Non, en fait, l'objet de cette question était de vous révéler comment il avait été financé, ce qui s'était passé, mais visiblement, vous connaissez déjà cette affaire. Il a coûté, ce palais, l'équivalent de 40% du PIB de la Roumanie sur 5 ans. Voilà, donc il a fallu détruire une trentaine d'églises, vous l'avez dit, 7000 maisons. Il sera largement pillé durant la chute de Ceaușescu en 89, mais aujourd'hui, il abrite le Parlement roumain.
Et donc, il a été entièrement financé par le peuple roumain, en fait.
Entièrement financé par le peuple roumain, effectivement, sans complexe. C'est Stéphane qui remporte le quiz du jour. C'est une belle victoire, Stéphane. Et je sens que vous êtes ému, puisque vous envoyez des textos, probablement pour dire à vos proches, j'ai remporté le quiz. Victoire.
Mais ça y est, voilà. Tout le monde est... branchez-vous sur Europe 1.
Ah oui, vous dites ça. Oui, branchez-vous pour célébrer ma victoire.
Bah voilà.
Bravo, Stéphane.